il l'a fait péché pour nous. Ça veut dire que Dieu a traité, lorsque Jésus était sur la croix, comment dire, il a subi un châtiment, il a été traité comme s'il était lui-même le péché. Il s'est presque identifié au péché, de manière à ce que ce péché ne soit plus, nous ne soyons plus coupables de ce péché. Hein, vous comprenez l'image. Donc là, Jésus représente, et exceptionnellement représenté par le serpent, parce qu'il est comme identifié au péché. Voilà. Pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Bon, il y a également le bélier de Morija, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est offert à la place d'Isaac. Alors là, c'est Jésus qui est offert à notre place, on comprend l'image, à la place d'Isaac ici. Il y a également l'échelle de Jacob, bon, ce qui est un chemin ouvert vers Dieu. Et Jésus est aussi un chemin qui nous est ouvert vers Dieu. Il y a également le rocher frappé après la traversée de la mer Rouge. Bon, les fils d'Israël ont soif et Moïse va frapper le rocher. Il va sortir de l'eau qui va donner la vie. Donc, l'eau va être ici représenter le Saint-Esprit. Et le rocher qui est frappé représente Jésus. D'ailleurs, ça nous est dit dans une épître dans le Nouveau Testament. Également le chandelier qui se trouve dans le tabernacle. Donc Jésus, la lumière du monde. Bon, et puis il y a les sacrifices. L'Holocauste. Alors l'Holocauste, c'est quelque chose qui est offert pour être agréable à Dieu. On brûle un sacrifice, c'est simplement pour que ce soit agréable à Dieu. De la même manière, le sacrifice de Jésus, son sacrifice sur la croix, on peut dire, a été entièrement agréable à Dieu. Donc ça, c'est une comparaison qu'on peut faire. Mais Jésus représente tous les sacrifices. Son sacrifice, plutôt, plus exactement, est annoncé par toutes les sortes de sacrifices qui étaient prescrits. Il y avait aussi l'offrande de gâteau. L'offrande de gâteau, il y a plusieurs précisions intéressantes. Elle était de fines fleurs de farine. C'est-à-dire, c'était ce qu'il y a de mieux dans la farine. La meilleure farine. Comme Jésus a été, on peut dire, de la meilleure pâte, hein, si vous me permettez le raccourci. Sans levain. Le vin, image toujours du péché. Hein. Donc, voilà, quelqu'un de parfait, sans péché. Il était pétri et couvert d'huile. Elle était pétrie et couverte d'huile, cette galette. Donc, comme Jésus, l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, quand on fabrique la galette, on y met de l'huile et ensuite on la couvre d'huile. Jésus a été conçu du Saint-Esprit et ensuite il a été, on peut dire, recouvert du Saint-Esprit au moment de son baptême. Vous voyez, pétri et couvert d'huile, conçu et rempli du Saint-Esprit. Il y a de l'encens également, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui rend Dieu favorable. Et puis il est passé au feu. Et alors là, on peut aller encore un petit peu plus loin. Bon, évidemment, il y a peu d'auteurs qui se sont aventurés si loin. Et c'est intéressant de lire ce qu'ils disent. Cette galette, donc, on la cuit de trois manières différentes. Soit on la cuit au four. Alors, vous voyez, le four, c'est quelque chose de, comment dire, qui, quand on est dans un four, hein, quand une galette est dans un four, elle est entièrement saisie dans la chaleur. Ça, ce serait les souffrances intérieures de Jésus. Alors, pendant sa vie, on le voit par exemple au tombeau frémir, au tombeau de Lazare, frémir en son esprit de voir quelqu'un de victime de la mort. C'est tout ce qui a fait souffrir Jésus intérieurement dans toute sa vie. Ensuite, on peut aussi la cuire sur la plaque, cette galette. Et là, c'est plutôt les souffrances publiques. Hein, sur la plaque, c'est à découvert. Les souffrances publiques, lorsque Jésus est condamné à tort, lorsqu'on lui met une couronne d'épines, lorsqu'il est souffleté par les soldats romains. Donc tout ceci, ça serait cuit sur la plaque. Et ensuite, dans la poêle, lorsqu'on met la galette dans la poêle, elle ne peut plus, elle est prisonnière, hein, quelque sorte. Ça, c'est Jésus crucifié. Et on lui dit, mais s'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Mais Jésus ne peut pas descendre parce qu'il est là par la volonté de Dieu. Donc il est comme la galette qui est prise dans la poêle et qui ne peut plus s'en échapper. Voilà. Donc une progression dans les souffrances de Christ jusqu'à sa mort. Alors il y a une autre sorte de sacrifice aussi qui est le sacrifice pour le péché. Donc tous ces sacrifices-là sont sanglants. C'est pour effacer les péchés et les délits. Donc comme Jésus aussi, son sang a été versé sur la croix pour effacer nos péchés. Bon, il y a encore le blé du pays. Quand le peuple d'Israël va entrer en Canaan, il va enfin pouvoir manger le blé du pays. Alors c'est pour nous, Canaan c'est le ciel, hein, pour nous, c'est l'image du ciel. Le chrétien puise sa force en se nourrissant de Christ, vivant dans le ciel. Le fait que nous savons que Jésus est vivant, Jésus est dans le ciel, c'est quelque chose qui nous donne de la force. C'est se nourrir un peu du blé de Canaan, le blé du ciel. Il y a également le temple, bien sûr. Bon, Jésus a dit, détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai. Hein, il parlait du temple de son corps. Donc, pourquoi ? Parce que le temple, c'est l'habitation de Dieu. Et Jésus était l'habitation de Dieu sur terre. Et puis aussi le voile du temple. Vous vous rappelez qu'au moment de la crucifixion, quand Jésus va expirer, le voile du temple se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Et on lit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus nous a consacré un chemin vers Dieu. On peut s'approcher de Dieu, dorénavant il n'y a plus le voile, au travers du voile, c'est-à-dire son corps. C'est comme si la mort de Jésus, comme si son corps était déchiré en quelque sorte, nous ouvre, hein, son sacrifice à la croix, sa mort, sa souffrance, nous ouvre le chemin vers Dieu. Déchiré, le chemin du ciel est ouvert. Donc Jésus est comparé au voile. Et alors là encore, bon, mais ça serait inépuisable, hein, je vais encore faire une petite parenthèse. Regardez les couleurs et les composants qu'on trouve dans ce voile. Il est fait de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors. Et vous trouvez dans ces quatre couleurs, quatre aspects de Jésus. Le bleu, c'est ce qui est céleste. Donc Jésus est céleste, c'est le Fils de Dieu. Le pourpre, c'est la couleur royale, hein, la couleur des robes royales. Donc Jésus est le Messie, le roi. L'écarlate, c'est la couleur du sang. Jésus est le Fils de l'homme, celui qui a souffert, qui a versé son sang. Et puis Jésus est l'homme parfait. Le coton, c'est la blancheur, c'est la pureté. Parfait, sans péché. Et on peut même, certains disent, dans ces quatre couleurs, on peut voir les quatre évangiles. Le céleste, c'est Jésus, Fils de Dieu, l'évangile selon Jean. Pourpre, c'est Jésus le roi, le Messie, l'évangile selon Matthieu. Écarlate, le sang, le Fils de l'homme, qui offre sa vie, l'évangile selon Luc. Et le coton, le serviteur parfait, l'évangile selon Marc. Et comment on peut aller très loin dans l'analyse de ces types de l'Ancien Testament. Alors j'en arrive à ma conclusion. Je vais essayer de faire aussi une conclusion sur le plan de la démonstration et puis sur le plan plus contemplatif. Jésus de Nazareth est-il le Messie? Eh bien oui, moi j'en suis persuadé. Bien sûr, tout ce qu'on a vu peut être exposé pour alimenter vraiment cette certitude. Mais ce qui me frappe le plus, c'est quand même la crucifixion. Parce que la crucifixion n'était pas un châtiment connu des Juifs. Et pourtant, à plusieurs reprises, on a cette idée d'être percé, on l'a vu dans le psaume 22, cette description qui correspond vraiment à l'état d'un crucifié. Donc Jésus a été crucifié, c'est vraiment, ça fait correspondre d'une manière étonnante à ce qui est décrit dans l'Ancien Testament. Sa divinité aussi. Pour les Juifs, c'est un petit peu choquant quand même que ce Messie soit divin. C'est dit à demi-mot dans l'Ancien Testament. Et Jésus arrive, il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il fait comprendre qu'il est Dieu lui-même. Donc ça, c'est aussi très convaincant. Donc ces deux éléments me semblent être les meilleures preuves parce qu'elles étaient assez imprévisibles par les Juifs et assez incompréhensibles dans les prophéties qu'ils connaissaient. Alors voilà comment c'est résumé dans l'Épître aux Hébreux. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises, en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de son être, qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, et qui, après avoir fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Voilà, on peut dire que tout ce qui était annoncé à demi-mot dans l'Ancien Testament prend son sens lorsqu'on lit cette longue phrase. Tout est en place. Et puis sur un plan plus contemplatif, bon, j'ai vraiment l'impression d'avoir seulement effleuré ce qu'on pourrait dire sur l'Ancien Testament. Donc oui, on peut retirer beaucoup de la lecture de l'Ancien Testament. Et c'est une des approches de l'étude biblique. On peut voir dans l'étude biblique de l'Ancien Testament des récits historiques. On peut voir aussi des principes moraux qui sont toujours valables, avec des personnages qui sont des exemples pour nous, des bons exemples ou des mauvais exemples. Mais c'est aussi une autre approche. Toujours se poser la question, qu'est-ce que ce passage peut bien nous apprendre sur le Seigneur Jésus ? Voilà, c'est aussi une clé de compréhension de l'Ancien Testament.